9h25 minutes. Fabrice était en Irak la semaine dernière. Vous avez entendu ses reportages, qui d'ailleurs sont toujours disponibles sur le site web de la station. Il est de retour, il est arrivé hier, et moi je voulais qu'on prenne un peu de temps ce matin, pas pour revenir sur ce qu'il a couvert comme tel que vous avez entendu, mais sur plein de choses dont on n'a pas eu le temps de vous parler durant son séjour là-bas. Fabrice, bon retour.
Merci.
Donc, peut-être dire aux gens pourquoi tu avais décidé de te rendre justement à Mossoul après la chute de l'État islamique.
Ben, parce que justement, on avait annoncé, le gouvernement irakien avait annoncé avec tambour et trompette en décembre que l'État islamique c'était fini, qu'ils avaient perdu leur territoire, que donc on pouvait presque passer à autre chose. Et je trouvais ça un peu particulier parce que je dis toujours, vous pouvez perdre votre territoire, mais l'idéologie est toujours là. Elle est pas forcément liée à la perte d'un territoire. Et deuxièmement, je me disais, mais voyons, il y a eu tellement de gens qui les ont supportés, que ce soit venus de l'étranger et d'Irak, que ça se peut pas que... À partir du moment où vous avez perdu ce territoire-là, l'État islamique soit mort. Puis deuxièmement aussi, je voulais voir c'était quoi le résultat à Mossoul particulièrement, qui est une ville qui a subi des bombardements pendant 9 mois, ce qui est complètement hallucinant. Ça a pris 9 mois à la coalition, aux forces irakiennes, aidées par des avions, des hélicoptères de combat, de l'artillerie, pour reprendre une ville. Alors qu'à l'intérieur, les djihadistes étaient, c'était un rapport de force de 1 à 10, hein. Donc, ils étaient 10 fois moins, mais ils ont eu l'avantage. Et c'est là, toujours, on se rend compte qu'une armée, même la plus préparée au monde, puis on l'a vu en Afghanistan, avec des moyens colossaux, des milliards qu'on met là-dedans, bah, bien souvent, une petite insurrection, une insurrection avec des groupes extrêmement motivés et entraînés peuvent vous compliquer la tâche. Et c'est ce qui s'est passé. Malheureusement, ce sont les civils qu'on a payé le prix. C'est ça aussi que je voulais voir, quoi.
Mais je me demande toujours, dans des cas comme ceux-là, comment l'humain réagit? Parce que les citoyens ont été assiégés par l'État islamique, sous la domination de l'État islamique. Ils doivent endurer cette période de bombardement. Les gens, quel est le niveau de résilience de ces gens-là?
Bah, déjà, le plus dur, ça a été d'en trouver qui avait survécu. Et puis, ce qui est particulier, puis ça m'a frappé quand je suis arrivé à Mossoul. On dit, OK, Mossoul, c'est une ville qui est grande. Puis si on sort des statistiques, on dit ça fait 50 kilomètres de Tours. Puis il y a 1,5 million d'habitants. Ok, ça dit pas grand chose, mais franchement là, le temps que ça m'a pris pour traverser cette ville-là, je me suis dit d'abord, ils étaient capables de contrôler une ville qui était gigantesque, donc à mettre sous leur joug 1,5 million d'habitants, même techniquement de la contrôler. En plus de tout leur territoire, les gens qu'on a trouvés, et la partie est de Mossoul est globalement en bon état. La vie avait repris, c'était bourré d'activités, tel qu'on l'imagine, des embouteillages, ça klaxonne de partout, des petits vendeurs, etc. Et quand on passe le fleuve le Tigre et qu'on arrive dans la vieille ville et les quartiers limitrophes, on se demande où on est là. On se demande si une bombe nucléaire vient pas de tomber ou s'il y a eu un tremblement de terre d'amplitude 7 ou 8. Et puis, vous rentrez dans les quartiers, vous pouvez marcher ou rouler pendant des minutes et des minutes sans voir personne. Puis subitement, il y a des gens qui sortent des gravats et des rues abandonnées comme des fantômes, vraiment, qui errent. Ils savent pas où ils vont. Puis il y en a qui sont devant des tas de gravats, c'est leur maison. Il y en a qui pleurent, comme on l'a vu, parce que ils savent que quelqu'un de leur famille est encore mort sous les décombres. Et les gens à qui on parle, finalement, sont très amers parce que ils ont été victimes deux fois. Ou trois fois, ils ont été victimes du groupe armé islamique parce qu'ils pouvaient pas partir. On dit ils avaient qu'à partir, mais partir où? Donc un régime de terreur où vous pouviez être battu parce que vous fumiez une cigarette, vous pouviez être quasiment avoir la main coupée, vous pouviez être décapité ou pendu, comme on m'a raconté pour un oui ou pour un non. Et puis après, ils sont victimes de la coalition. Puis s'ils veulent fuir, il faut traverser cette ville qui est gigantesque. Et là, souvent, vous vous faites tirer dessus par des snipers de l'État islamique qui refusent que vous partiez. Puis j'ai raconté un matin l'anecdote d'un habitant qui a vu un djihadiste étranger, parce que c'était eux les plus féroces, tirer sur une femme parce qu'elle fuyait en lui disant « tu vas mourir avec nous finalement ». Et moi, je l'avais vu en novembre 2016, on voyait arriver des gens qui étaient blessés. Ils s'étaient fait tirer dessus par les tireurs de l'État islamique pour pas qu'ils fuient. Et puis maintenant... Ils ont eu les bombardements aussi de la coalition, il y en a plein qui sont morts, et maintenant ils sont laissés à eux-mêmes. Donc c'est la troisième punition.
Et ça me rappelle un Polonais qui avait raconté dans une entrevue qu'il avait vécu évidemment sous le régime nazi, la terreur, l'occupation et tout ça. Et après quoi, malgré les soulèvements des Polonais, débarquent les Russes et imposent un régime avec autant de sévérité puis autant de mesures. Et c'est comme si t'es jamais capable de retrouver ta liberté qu'on t'a enlevée à deux reprises dans ce cas-là et trois dans ce que tu viens de dire.
Trois, puis j'ai vu des scènes vraiment touchantes. À un moment donné, on est tombé sur... J'ai fait une photo, je la trouvais complètement surréaliste. Il y avait quelqu'un qui avait installé un grand sofa avec un petit table et puis il faisait son thé. Il était contre une maison qui était dévastée. En face, il y avait un amoncellement de gravats. Puis on pensait qu'il habitait à l'endroit où il avait mis le sofa, mais non, il habitait en face. Puis il m'a dit, il vient tous les jours, il vient voir les ruines de sa maison. Okay. Mais il n'a pas d'argent pour la reconstruire, évidemment. Et deuxièmement, mais je lui dis, pourquoi vous venez là tous les jours? Ben, il dit, je veux pas qu'on me vole quoi que ce soit. Mais il n'y a rien à voler, puis même si il y a des gens quand même, il y a des voleurs, on l'a vu, ils vont dans les décombres, mais c'est extrêmement dangereux parce que c'est encore miné. Puis souvent, c'est dégueulasse, il y a des cadavres, quoi. Il y a des cadavres de djihadistes, puis j'en ai vu, c'est incroyable, quoi. C'est des visions vraiment cauchemardesques. Et puis, toujours la même question, tout ce qu'on vous dit toujours à chaque fois, ce qu'il me disait, c'est pourquoi l'Occident nous laisse tomber? Il dit, je comprends que vous étiez obligé de lutter contre le groupe armé islamique, mais notre ville est en ruine, quoi. Ça va prendre des milliards de dollars. Il y a rien. Il y a l'UNICEF qui installe un peu des cuves d'eau à des endroits. Il n'y a pas d'électricité. Et beaucoup de gens de Mossoul habitent encore dans des camps en dehors de la ville. Mais je sais pas comment ils vont s'en sortir. Puis il y a ces buildings de 4-5 étages qui sont penchés, un peu martyrisés, qui ont été bombardés. Et ça va prendre un travail, ça va prendre des années, à mon avis, avant que cette ville, qui était magnifique, qui était historique, retrouve sa beauté d'autrefois. Et le danger, c'est que j'ai senti une amertume chez les habitants, qui sont majoritairement des Arabes sunnites. Le gouvernement en Irak est un gouvernement chiite. Puis il faut bien comprendre que là-bas, au Moyen-Orient, ça a une grande, grande importance. Et il faut savoir que le groupe armé islamique est né déjà de cette frustration des Arabes sunnites qui se sentent oppressés, opprimés par le pouvoir central, que ce soit là ou dans d'autres pays. Et il faudrait pas que, si on les laisse effectivement dans cet état-là, si on les ignore, ça peut donner l'idée à un futur autre groupe armé islamique de renaître de ses cendres, parce qu'ils vont capitaliser sur cette rancœur de la population. C'est toujours pareil, hein. Et quand on a des attentats ici, on se demande toujours pourquoi ça arrive, et l'explication est souvent là-bas, quoi. Je dis pas qu'il faut excuser, mais je dis c'est l'explication, quoi.
Mais quand une population se sent flouée, bernée, ou encore pire, humiliée, là, comme ça a été le cas des Allemands après la Première Guerre, on a vu ce que ça a donné. Puis
tout à fait.
Il y a un potentiel de résurrection de gens plus extrémistes encore.
Tout à fait. Puis et c'est ça le problème de l'Irak en ce moment, c'est que c'est un pays qui est dans un équilibre fragile. Il est en paix, oui, depuis quelques mois. Mais on a fêté, entre guillemets, hier, le 15e anniversaire de l'invasion américaine de 2003. Mais c'est un pays qui est très instable, je veux dire, justement, parce qu'il y a une rancœur entre les différentes communautés. Puis ces rancœurs-là sont restées un peu, ont été occultées par la guerre contre l'État islamique. Mais finalement, maintenant, elles ressurgissent. Les sunnites se sont en chicane avec le pouvoir central. Le pouvoir central est en chicane avec les Kurdes, armés même. Donc on a le sentiment que, et puis il y a des élections dans 2 mois. Je trouve que la situation du pays est pas très reluisante, quoi.
Autre sujet de question, on sait que des gens ont quitté le Canada, le Québec, pour participer aux activités terroristes d'État islamique. Est-ce qu'il reste, selon toi, encore des Québécois là-bas, vivants, j'entends, là, ou s'ils sont soit ou ont quitté, ou encore ils ont perdu la vie?
Ben, c'est extrêmement difficile, puis c'est un grand mystère. Moi, je cherche depuis un moment. On sait qu'il y a une Québécoise, ça c'est connu, qui est actuellement entre les mains des Kurdes en Syrie, avec un Ontarien. Le problème qu'il y a, c'est qu'en Syrie, en ce moment, les Kurdes subissent un assaut de l'armée turque, donc ça peut poser un problème pour son rapatriement. Puis, c'est toujours pareil ce que je dis, il faut que le Canada discute avec les Kurdes, mais c'est un groupe paramilitaire, c'est pas une entité étatique, donc comment on organise ça, et puis surtout au niveau sécuritaire, comment on va la chercher là-bas? Puis il y en a une autre, qui aurait été vu, qui est à Mossoul, au cours de l'été passé, et sa famille n'a plus de nouvelles depuis. Très peu, et à chaque fois, moi, j'ai posé la question, mais où sont les Québécois, où sont les Québécoises? Personne ne sait, je veux dire, et c'est un tabou, si en Irak, les djihadistes étrangers, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'accès, moi, j'ai essayé à plusieurs reprises d'avoir accès à des prisons où ils sont, les djihadistes étrangers, puis les femmes sont mises de l'autre côté que les hommes, c'est géré par le service de renseignement irakien, et on ne veut pas en parler. On m'a dit aussi, tout à fait par hasard, quand je suis allé visiter le fameux CHUM des djihadistes, là, l'hôpital. J'aime bien l'appeler comme ça. Un des médecins m'a dit, mais moi, j'ai vu un Canadien, mais il sait pas si c'était un Québécois ou un Canadien à Mossoul, dans l'hôpital de Mossoul. Et on sait que parmi les jeunes qui sont partis, il y en avait plusieurs qui étudiaient en sciences de la santé. Et puis, c'était fait promettre qu'ils pourraient, là-bas, travailler au bien-être de la population. Donc, c'est possible. Mais, malheureusement, il faut savoir quand ils arrivent, ils jettent leur passeport, ils changent d'identité. Mais ils sont repérés. Vous pouvez pas maintenant, en tant que djihadiste étranger, ex-djihadiste étranger, passer inaperçu en Irak, là. Vous serez vite... Il y a tellement de points de contrôle, il y a tellement de patrouilles de l'armée, que vous serez dénoncé, vous serez repéré. Donc, je sais pas, c'est un grand, grand mystère, quoi.
Bon, parlons évidemment de ces mesures de sécurité, de ces très nombreux points de contrôle. On se déplace pas facilement en Irak. On peut comprendre pourquoi. Là,
ouais, mais... on les comprend. J'ai pas compté le nombre de points de contrôle que j'ai passé au cours de cette semaine, mais on a pas mal roulé. Alors il y a le point de contrôle relax, ça que mon collègue irakien appelle les points de contrôle salam alaikum, parce que c'est juste pour dire bonjour. Puis le gars il vous regarde, puis il penche la tête dans la voiture, il me regarde, il dit bon lui il a pas l'air trop dangereux, bye. Et puis il y en a d'autres où c'est plus serré. Là, faut sortir, expliquer. Et là, dès qu'ils se rendent compte que vous êtes étranger, pourquoi vous êtes là, qu'est-ce que vous faites là, puis souvent ils vous demandent une autorisation, mais qui n'existe pas. Avez-vous une autorisation? Ben, il y en a. Non, j'ai pas besoin d'autorisation. J'ai un visa. Mais parce que ils veulent une autorisation, ils veulent un papier. Puis à Mossoul, on a failli se faire expulser à un moment donné un quartier parce que il y avait un gars, il voulait absolument que je lui donne une autorisation que j'avais pas. Et ce qui complique la tâche, c'est qu'en Irak, puis ça explique bien la complexité du pays. Il n'y a pas un point de contrôle de l'armée, là. L'armée a son point de contrôle. Les forces antiterroristes, qu'on appelle la Golden Division, là, qui ont été la lutte de Mossoul, ont leur point de contrôle. Puis toutes les milices ont leur point de contrôle. Et les pires, c'est les milices chiites, justement, qui sont financées par l'Iran et soutenues par l'Iran. Et ça, la population en a une peur, panique, les sunnites. Ils sont objets de brimades, souvent, ces points de contrôle-là. Puis c'est souvent des gamins, là, à qui on fourgue une arme automatique. Puis ils ont, finalement, chacun son petit pouvoir, son point de contrôle. Si lui, il décide, là, que vous êtes une menace, puis qu'il veut pas de vous, au mieux, il va vous faire faire demi-tour, quoi. Mais il y a des endroits, et plus vous vous rapprochez des villes, plus c'est serré. À chaque fois, faut sortir, faut donner son passeport. Ils regardent le passeport, ils regardent la carte de presse qui est en français, ils comprennent pas, là, mais ils la regardent. Ils font des téléphones. Alors, ça complique
le trajet. Mais ça prend du temps à chaque fois.
Ça prend du temps à chaque fois. Tout à fait. Ça, c'est la seule chose qui nous a rendu la tâche un peu complexe. Puis, vous êtes à la merci de ces gens-là. Ils peuvent décider que si vous n'avez pas le papier qui n'existe pas, tu fais demi-tour. Quand on est allé à Kerraya, justement, voir l'hôpital des djihadistes, tout le monde nous a dit, oh là là, vous allez voir à l'entrée, c'est très sévère, ils vont vous virer de bord. Bon, finalement, ils nous ont laissé rentrer, quoi.
Et à Bagdad, comme tel?
Alors là, je rigole, mais là, quand on arrive à Bagdad, c'est hallucinant, quoi. C'est une ville retranchée. Je sais pas combien j'ai compté de points de contrôle dans Bagdad, de murs en béton. Et le pire, c'est l'hôtel. Il y a deux hôtels qui sont recommandés par les Occidentaux. Quoique, il est recommandé, mais j'ai regardé après dans Google, il avait sauté en 2016, je pense. L'État islamique avait mis une voiture piégée, il n'y avait plus de façade. Et là, pour rentrer dans cet hôtel-là, c'est, je sais pas, je pense qu'une base canadienne est moins bien protégée. Vous passez, il y a des murs en béton de 3-4 mètres de haut, vous passez dans un tunnel, là la voiture est filmée, faut sortir, ils ouvrent le capot moteur, ils passent un chien anti-explosif, il y a des gars en armes partout jusqu'à la réception. Ouais, c'est ça.
Là c'est un hôtel.
C'est un hôtel, mais en ville c'est pareil, partout, mais de l'autre côté, et la route de l'aéroport, là ça c'est le summum de la sécurité. Je pense qu'honnêtement, là, finalement, vaut mieux prendre un avion à Bagdad que de prendre un avion en Occident. Parce que le terroriste, à moins qu'il soit employé de l'aéroport, je sais pas comment il peut faire.
Pour se rendre
dans l'avion.
Parce que les contrôles commencent avant l'arrivée à l'aéroport.
Oui, puis 3 kilomètres avant l'aéroport, la route est complètement sécurisée, il y a des murs en béton, il y a des points de contrôle partout, il y a même un point de contrôle où la voiture est scannée. J'ai imaginé que c'était un scanner parce qu'il y avait toute une arche. Là, vous montez sur une plateforme. Le nombre de fois où j'ai dû descendre ma valise, la passer dans un scan, moi être fouillé, palpé, remonter dans la voiture, partir, faire 3 kilomètres, recommencer. Et entre l'entrée de l'aéroport et l'avion, c'est 5 points de contrôle comme ça. À chaque fois, vous dites, bon, c'est fini, là, la valise, puis mon passeport, puis être palpé. Non, ça recommence. Et même jusque de rentrer dans l'avion, la salle d'embarquement, faut recommencer. Mais c'est un pays en guerre, c'est un pays qui a été en guerre, faut vivre avec ça, quoi.
C'est sûr. Fabrice, merci beaucoup d'être venu ce matin.
Merci,
Paul. Félicitations encore une fois pour ces interventions en direct de ce pays déchiré. Mais ça donne tout un autre point de vue. Merci. 9h39, pause, et on vient après pour notre sujet de tribune téléphonique.